Renault.
L'autre jour, un chef d'atelier Renault me demande « Monsieur José, vous pourriez nous aider à recruter pour le service après-vente » Et le voilà qui me parle de ses métiers de plus en plus technologiques, avec des formations régulières, bref, le gars passionné. Moi je dis, il ferait mieux de parler à ma place.
Les ateliers Renault Car Service recrutent des mécaniciens, électromécaniciens et carrossiers, débutants ou confirmés. Postulez sur recrutement-réseau.renault.fr. Renault Car Service, numéro 1 du SAV 2024. Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault? Source l'Automobile Magazine 2023.
RMC.
Oh, c'est gonflé, oh, c'est gonflé.
Basket Time.
On fout ce qui arrive en deuxième mi-temps, même si on perd, au moins on joue avec notre fierté. Et on joue dur. Après on perd, c'est pas grave, c'est la vie.
C'est fini. Champion d'Europe de basket, messieurs dames. Jacques Monclar est aux anges. On est tous aux anges.
Pierre Dorian.
Basket Time, c'est votre rendez-vous basket sur RMC, à télécharger tous les mardis sur rmc.fr. Avec aujourd'hui Fred Weiss et Stephen Brun. Bonjour messieurs.
Bonjour, petit Pierrot.
Ah, c'est un spécial équipe de France aujourd'hui, puisque vous êtes avec l'équipe de France qui prépare ses deux matchs de qualif à la Coupe du Monde contre le Monténégro et la Hongrie. Plantez-nous un peu le décor, Stephen.
Plantez-nous un peu le décor. Bon, écoute, les Français sont à 4-0 pour le moment. Ça va être deux matchs importants parce qu'il faut éviter la défaite, parce que les défaites, tu les gardes après dans la poule avec laquelle tu croises. Et puis ça va servir aussi de préparation pour l'Euro en septembre.
Non, mais parce je voulais que tu plantes le décor de là où vous êtes, puisque là, vous n'êtes pas en studio avec moi.
Bon, on est à Nanterre, là. On est chez moi, Palais des Sports Maurice Thérèse, mon grand. Là où j'ai mis quelques filoches. Il y a même une banderole au champion de France 2013.
Il y a une banderole champion de France, il n'y a pas une banderole Steve, on t'aime, on te kiffe.
Non, il y a une banderole champion de France. En plus, champion de France.
Est-ce qu'ils ont retiré ton maillot à Nanterre?
Non, il y a le maillot de Jeremy Inzoli et de Chris Warren qui était avec moi, champion de France. D'ailleurs, en finale, on a battu contre Strasbourg. C'est une petite dédicace à Franck Nimikina qui est avec nous.
On va recevoir dans un instant. Vous êtes où exactement? Vous êtes sur le parquet ou...
Non, la tribune de presse.
Non, tribune de presse.
Ils viennent de finir l'entraînement, ils ont révisé quelques systèmes.
Bon petit entraînement?
Entraînement léger.
Je vais pas te mentir, c'était pas une énorme intensité, je pense que j'aurais pu le faire.
T'auras encore ta place, c'est la question que j'allais te poser.
Un petit peu, ouais, c'était des révisions de système en marchant, Pierrot. Il suffit que t'aies 2-3 fils connectés, tu peux faire le practice. Hein.
Fred?
Ils avaient l'habitude de s'entraîner 2 fois par jour, un peu dur là. Vincent a dit que c'était un peu compliqué, donc il fait plus qu'un seul entraînement dur par jour.
Alors on va enchaîner les invités équipe de France dans ce Basket Time spécial bleu. Franck Nilikina, l'arrière des Mavs, sera avec nous dans un instant. Vincent Poirier, l'intérieur du Real. Et puis Boris Diaw, le manager de l'équipe de France, pour toutes les questions qui concernent bien sûr les qualifs à la Coupe du Monde, mais aussi l'Euro cette année, la Coupe du Monde l'an prochain et les JO en 2024. C'est parti, Basket Time tous les mardis en podcast sur rmc.fr et on démarre avec Franck Nilikina.
Look down to the final seconds, he draws the attention of the defense, kicks it out, and Nilikina knocks it down. Here's Nilikina on the other end, and France picking up right where they left off. France ahead, Franck Nilikina, their young star. Nilikina left completely unguarded for three, and he makes them pay.
Face back to Nilikina, again lays it up and in, boys looking good on his drive, Nilikina.
Franck Nilikina, l'arrière des Bleus et des Dallas Mavericks, vice-champion olympique, médaillé de bronze à la Coupe du Monde en 2019, qui est avec nous dans Basket Time. Salut Franck.
Bonjour à tous. Salut Pierrot, ça va?
Ça va très bien. Ce qui est cool, c'est que tu vois, maintenant, là, face à toi, tu n'as plus le consultant Stephen Brun, tu as ton fan Stephen Brun,
qui ne jure
que par les Dallas Mavericks. Donc tu peux, là, tu l'as dans la main, là, tu en fais ce que tu veux de Stephen aujourd'hui. Hein.
Tu sais que les Mavs, c'est les derniers matchs, c'est la première fois que ça faisait longtemps que je m'étais pas levé en direct pour voir des matchs de playoff. Eh ouais, on m'avait régalé.
Ah, super, avant de parler des Bleus, dis-nous un petit peu quel bilan tu fais de ta saison à Dallas.
Ben, bonne fin de saison, une saison un petit peu avec des hauts et des bas, des moments joués un petit peu plus que d'autres. Je me tenais tout le temps prêt. C'est vrai qu'on a un super groupe avec l'équipe des Mavericks. On avait beaucoup de joueurs internationaux aussi, beaucoup de talent. On parle de Lucas, bien évidemment. Mais c'était un super groupe, une superbe année qui s'est concrétisée avec une finale de conférence qui a été, je trouve, méritée par rapport à ce qu'on a mis comme ingrédient cette saison. Malgré tout, on a perdu contre les champions, donc c'était vraiment c'était compliqué, mais on est allé très loin et ça fait plaisir.
Le niveau de Luka Doncic sur cette saison, est-ce qu'il allait encore plus haut que ce qu'imaginait la franchise?
Après, je sais pas si on peut vraiment mettre une limite à à ce qu'on attend de lui aujourd'hui, parce que tous les soirs il nous sort des trucs de un petit peu inattendus. Il joue un niveau de jeu très haut. On a pu voir qu'il avait un peu commencé la saison avec un petit peu de difficultés, mais difficultés pour lui quoi, c'est pas
c'est 25-10 quoi.
C'est ça. Mais après il était plus en rythme sur la deuxième partie de saison. Je trouve que c'est un peu ce qui lui a un petit peu fauté au niveau des votes de MVP pendant la saison, mais voilà, il a très bien fini, c'est un très bon leader, il nous a amené jusqu'en finale de conférence avec tout le groupe. Donc
c'est un vrai leader, ouais, Lucas. Ouais. Il a une grande bouche, il pleure beaucoup. On sait qu'il a beaucoup reproché de pleurer auprès des arbitres, mais c'est un vrai leader vocal et tout
ouais,
ça.
C'est un vrai leader. C'est un vrai leader. Bon après aussi c'est le jeu, hein, tu sais,
oui, oui, oui.
Tout ce qui est jouer un peu avec les arbitres, jouer un peu avec aussi les adversaires, etc. C'est le jeu. Maintenant ça fait partie du basket. Mais ouais, niveau leadership il est top. On peut toujours compter sur lui, que ce soit sur le terrain ou en dehors, ou même avec sa voix quand on en a besoin. Donc franchement c'est vraiment cool de jouer avec lui.
Est-ce que vous avez reparlé de la demi-finale olympique, juste pour se faire plaisir?
Ouais, de temps en temps, début de saison, on en parlait. Surtout, il y a aussi Josh Green, qui est en équipe d'Australie.
Oui.
Donc, on avait aussi ramené nos médailles, on l'avait un petit peu chambré, mais donc c'était assez cool. Il y avait aussi un de nos kinés, Dion Calhoun, qui était aussi avec l'équipe des États-Unis. Donc, lui.
Vous l'avez terminé, lui.
Mais lui, on pouvait pas trop lui dire grand-chose. Mais voilà, c'était cool.
Et défendre sur lui. Non, moi j'avais juste la question, défendre sur Lucas Doncic, vu que t'es réputé comme un très bon défenseur, ça fait quoi défendre sur lui? Est-ce qu'il y a vraiment un truc qu'on peut faire contre lui, ou vraiment le mec est juste injouable?
Moi j'aime bien défendre sur lui.
Et lui il aime bien quand tu défends sur lui, toi?
Ah, il m'a dit que je lui donnais un petit peu du fil à retordre, donc ça fait plaisir. Mais ouais, c'est cool. Être réputé en défense, la défense c'est une de mes spécialités, donc c'est toujours un challenge excitant quand on a un joueur qui est super talentueux comme ça, tous les jours à l'entraînement déjà de défendre sur lui et aussi d'apprendre quoi, parce que c'est des choses extraordinaires qu'il fait. Le basket il l'a en lui, donc c'était une année formidable et j'ai beaucoup appris juste en étant son coéquipier.
Et la suite, Franck, je crois savoir que Dallas a une team option, je crois qu'ils ont activé ils peuvent l'activer jusqu'au 4 juillet.
C'est ça.
Toi, tu vois comment la suite, sachant que tu as très bien fini, tu as eu des problèmes de santé, ton truc aux amygdales qui fait que tu n'as pas pu débuter les playoffs. Tu es en relation avec les Mavs, tu penses que ça va continuer ou pas?
Après, on ne sait jamais. Bien sûr, je suis en relation avec eux. On a un suivi. Sur la fin de saison, ils étaient bien sûr très contents de ce que j'ai pu proposer. Après, on sait jamais. Hein. On attend jusqu'au 4 juillet et voir ce qui va se passer. La NBA, ça se passe comme ça, quoi.
Et Jason Kidd, comme coach, quand on est un meneur, ça doit être quand même quelque chose, non?
Ah, c'est top. Tous les arrières, on a vraiment bénéficié de son intelligence de jeu, et même toute l'équipe, en fait. Il simplifie les choses. Il a une vision du jeu dans le basket. Il voit, en fait, toujours l'étape d'après dans ses systèmes, et il nous donne toujours des petits conseils. Justement pour appliquer ces systèmes de la meilleure manière, ces principes de jeu, parce que c'est vrai que il laisse beaucoup de liberté aux joueurs, surtout à Lucas, et on le voit même dans sa relation avec Lucas, avec Jalen Brunson, avec tous les arrières, que fois c'est un peu aussi lui qui est un peu sur le terrain, et il nous aide beaucoup quoi.
Est-ce que Lucas va pas être triste d'avoir perdu Big Boban ou pas?
Ah, je pense, si on est tous tristes,
C'est vrai,
c'est un super mec.
Exceptionnel.
Dans le vestiaire, ouais, exceptionnel. Dans le vestiaire, ça fait toujours plaisir de voir Boban, tu vois, quand t'arrives dans la salle, quand t'arrives à l'entraînement, de la voir. Il met toujours la bonne ambiance dans le groupe. Il est toujours celui qui travaille le plus à l'entraînement.
Et lui, tu le vois de loin pour le coup, tu sais, quand il est pas là, tu le sais rapidement.
Bon acteur en plus.
Très bon acteur.
Son film sur Netflix avec Adam Sandler, il a régalé.
Il y a aussi le John Wick, oui. Et tout, franchement, non, top. Mais ouais, comme dit, c'est celui qui travaille le plus, il arrive avant tout le monde, il termine avant tout le monde, pratiquement une heure et demie, même s'il joue pas. C'est vraiment quelque chose d'agréable de l'avoir, donc on est tous tristes.
Juste pour finir sur les Mavs, Franck, si ça continue, si Dallas lève l'option pour une année supplémentaire, avec l'explosion de Brunson, avec l'arrivée de Dinwiddie, est-ce que ça veut dire que toi, tu acceptes d'être dans un role player dans l'équipe de Dallas?
Non, on verra ce qui passera cet été. Mais bien sûr, j'attaque l'année avec l'intention d'apporter le plus à l'équipe et aussi de passer des steps dans mon jeu individuel. Donc ça va être très important par rapport aux Mavs et par rapport à la carrière qui suit, quoi.
Alors en et équipe de France, c'est totalement différent, hein, Steve, ce qu'on demande à Franck.
Bah, Franck, en équipe de France, il a peut-être plus de responsabilités offensives. Est-ce que pour toi, c'est différent d'arriver en équipe de France, t'as peut-être plus d'opportunités de te montrer, de scorer. C'est peut-être un exutoire, un peu, l'équipe de France, un peu.
C'est deux choses différentes. C'est sûr, on me demande pas les mêmes choses ici qu'à Dallas. À Dallas, bon, voilà, il y a Lucas, il y a Jalen Brunson. Dans des rôles où ils sont souvent sur les pick and roll. Alors qu'ici, je vais être plus dans les actions de pick and roll, dans les actions d'agressivité. Donc c'est, bon, après, pour un joueur, c'est toujours sympa d'explorer son jeu et aussi c'est ce que je fais. Donc voilà, de revenir ici, c'est sympa.
Mais c'est pas un peu frustrant quand même de se dire, ok, je suis capable de le faire, je l'ai montré, et notamment la Coupe du Monde, et repartir là-bas où bah t'as moins de ballons, où t'as moins d'options en attaque.
Ça peut l'être de temps en temps, mais après, se mettre au service de l'équipe et jouer une finale de conférence, jouer des grands matchs de haut niveau. C'est sûr que quand on apporte une pièce à l'édifice de cette manière, on se pose pas de questions, quoi. On fait le job, on essaye d'apporter le plus quand on joue les Suns ou quand on joue les Warriors et qu'on sait que le focus il va être beaucoup plus défensif et sur tout ce qui est impact dans les autres parties du jeu, on va le faire parce que au final tout ce qu'on veut c'est l'objectif collectif, c'est d'aller en finale, d'aller chercher le titre, quoi.
Dernière petite question, parce qu'on va le libérer, il y a Vincent Catan. Le concert de Zadjou, bien?
Ouais, super, non, super, super.
Ah, c'était cool. Il y avait Sergi Bacca aussi?
Ouais,
Diaspora Congo-Kinshasa ou quoi?
Il y avait pas mal. Ouais, moi, je suis rwandais.
Ah, t'es rwandais, toi?
Du Rwanda, ouais, mais c'était pas mal, il y avait pas mal de monde. Et aussi, Zadjou, c'est quelqu'un qui je suis proche, il est venu à Dallas aussi voir le match.
Il est venu à Dallas, ok.
Ouais, je l'ai vu à New York aussi, il est venu à New York voir le match, donc, et ça lui tenait à cœur aussi que je sois là, donc je suis venu, je suis rentré, je suis allé le voir, quoi. C'était vraiment un bel événement.
Et en termes de ville, New York, Dallas, c'est quoi ta préférence?
C'est très différent. Tout le monde me demande. New York, c'est New York. New York, c'est New York. New York, c'est spécial. Mais c'est vrai que Dallas, c'est une ville très agréable à vivre. Donc de voir les deux, en fait, c'est très intéressant et ça fait du bien en tant que juste en pour une expérience de vie, quoi.
T'es déjà bon en politique, c'est déjà pas mal.
Franck Nilikina, merci beaucoup.
Merci Franck,
merci à vous.
Bon
merci.
Match avec les Bleus. Je vous rappelle, c'est au Monténégro vendredi et donc face à la Hongrie. Lundi, c'est un spécial équipe de France dans Basket Time que vous téléchargez bien sûr comme chaque semaine sur rmc.fr. Le mardi, on va prendre de la hauteur. Vincent Poirier nous rejoint dans Basket Time. Rebound Batum. Quarterback pass down the floor was a beauty, and Poirier for the big touchdown. Poirier going one way and then the other. Can't get away from Germany's leading scorer. Then he does, and he puts it in with the contact. Poirier will take on the long two, and he hits it. Lecombe, another fast break for France, thrown up. Poirier unloading some French firepower. Basket Time spécial équipe de France. Je vous rappelle que Fred Weiss et Stephen Brun sont avec les Bleus, hein, en rassemblement avant les matchs de préparation, enfin de qualification plutôt, à la Coupe du Monde. Vincent Poirier, l'intérieur de l'équipe de France et du Real Madrid, nous a rejoint. Salut Vincent.
Salut, salut.
Salut Vince.
Salut.
Vincent qui sort d'une grosse saison au Real, champion d'Espagne, finaliste de l'Euroleague. Il te reste de l'énergie pour les Bleus, Vincent?
Toujours.
Toujours. L'énergie, toujours. C'est pas ce qui te manque, cela dit, hein.
C'était une longue saison, mais bon, là, vu que ça enchaîne, ça laisse pas trop de temps pour perdre, et donc on peut enchaîner assez facilement.
Comment t'expliques que tu aies un rôle si important dans un club majeur d'Euroleague, donc très haut niveau, et que tu ne sois pas imposé dans les franchises NBA dans lesquelles tu as joué, notamment à Boston? C'est quoi qu'est-ce qui fait la différence, en fait? C'est la confiance d'un coach? C'est le jeu qui te convient mieux? C'est quoi?
Bah déjà en Euroleague j'avais prouvé à Vitoria, j'avais montré des choses. Donc voilà, quand tu reviens en Euroleague, t'as déjà un statut et t'as déjà, voilà, les gens te connaissent. Le coach il me connaissait, on a joué plein de fois contre Madrid, contre les joueurs. Donc voilà, la situation est différente. Quand tu vas en NBA, personne ne te connaît. Voilà, et puis c'est un monde un peu plus différent, on va dire. Et voilà, en plus j'ai été dans des équipes qui jouaient quand même les playoffs, etc. Donc s'imposer dans une équipe qui gagne et qui tourne bien, c'était quand même compliqué. Donc voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Des fois ça marche pas toujours.
Mais là, bah t'es pas malheureux.
T'es dans
ce qui se fait de mieux hors NBA, le Real Madrid. Ta saison, tu disais, t'étais frustré un petit peu parce que il y a cette finale au JO que vous perdez, il y a cette finale en Euroleague que vous perdez contre l'Anadolu, le Barça en finale de championnat d'Espagne, en Copa del Rey, et là tu dis la finale de championnat d'Espagne, je peux pas perdre contre Barcelone.
Ouais, bah surtout que comme j'ai dit, hein, ça faisait beaucoup de finales perdues en l'espace d'un an, surtout que j'avais perdu la CB l'année dernière quand je suis arrivé aussi. Et puis on avait perdu beaucoup de matchs contre Barcelone cette année. Donc tout le monde nous voyait un peu mort en finale de Liga, mais voilà, on a su après le match de l'Euroleague où on gagne contre eux, et je pense que ça leur fait un petit coup aussi. Et voilà, donc on arrive en finale d'ACB, on est tous ultra motivés, et voilà, je pense que ça s'est vu sur les matchs où il y a quand même des matchs où on les a dominés, et heureusement qu'on repart avec le titre parce que
comment t'expliques Pierrot, qui est fan de foot, enfin fan du PSG, donc il a souffert avec le Real Madrid, est-ce qu'il y a vraiment un effet écusson au Real Madrid, que ce soit au foot ou au basket, quand tu portes cette tunique, il y a le poids de l'histoire qui parle?
Bah ouais, parce que déjà quand tu perds deux finales, après t'es Real Madrid, tu vois, donc t'as la pression de dire on peut pas perdre trois, surtout contre les équipes comme Barcelone. Voilà, tu le sais inconsciemment, personne te le dit, mais inconsciemment tu le sais, t'es là pour gagner, t'es pas là pour perdre, et voilà, peu importe l'équipe en face, faut que tu gagnes, et je pense qu'on l'a tous, on a tous plus ou moins compris à la fin, que de se dire bon, il est temps qu'on montre que voilà, tout le monde croit qu'on est fini, tout le monde a parlé sur nous comme quand on avait un mauvais moment, qu'on machin, et je pense qu'on l'a bien fait.
T'es associé avec un autre big man, un peu un Rudy Gobert européen. Enfin, européen, je m'entends. Walter Tavares, qu'est-ce qu'il a de spécial? Tu t'as dit que c'était un mec spécial.
65 ouais, déjà, gros.
Non, mais bah déjà, c'est un monstre de la nature. Voilà, il fait 2m20, 21 ou 24, je sais plus. C'est une bête physique. Il est tout le temps à la salle. Il est, pour sa taille, il est stable, il est grand, il est costaud. Et voilà, il a une mentalité de gagnant aussi. Voilà, il bosse tous les jours et j'ai une très bonne relation avec lui. On s'entend très bien. On a réussi à très bien s'entendre sur le terrain, sur le temps de jeu. Voilà, il n'y a pas de jalousie entre nous. On sait que le but c'est que l'équipe gagne. Et voilà, on sait que même s'il y en a un qui est un peu moins bien, l'autre sera là et assurera les arrières. Donc c'est aussi notre force à Madrid, c'est de savoir qu'on aura toujours un pivot dominant, peu importe la situation. Et je pense que c'est important aussi pour gagner des matchs. Donc et pour faire des bonnes saisons, et ça a marché. On a une très bonne relation lui et moi, et on a beaucoup de respect l'un pour l'autre.
Alors, ouais, j'ai entendu aussi. J'ai juste une question, Pierre, par rapport à Pablo Lasso qui a eu des problèmes de santé. Est-ce que ça va mieux?
Ouais, ça va mieux. Bah ils ont détecté ça à temps. Voilà, il était en train de faire une crise cardiaque, un infarctus. Il est allé à l'hôpital et en fait ils ont détecté ça avant. Donc voilà, deux jours après il était sorti. Il était avec nous à la salle et je pense qu'il pouvait pas s'empêcher de coacher un peu l'entraînement. Maintenant, après, je sais pas comment ça va se passer pour l'année prochaine. Je sais qu'il a encore un an de contrat et voilà. Mais après, j'en sais pas plus pour l'instant. Mais en tout cas, il va bien. Il était souriant et donc voilà, tant mieux.
Alors Vincent, la situation que tu décris au Real, vous allez peut-être un peu connaître la même chose en équipe de France. À l'intérieur, dans un secteur où dans le passé, on a parfois eu un peu des soucis. Maintenant, ça devient de plus en plus costaud. Bon, il y a Rudy, évidemment. Puis il y a les jeunes qui arrivent, là, les Johan Makoundou, Victor Wembanyama. Il y en a peut-être aussi d'autres. Il y a Mustapha Fall, ouais. Exactement. Ça va être compliqué de garder sa place, là. Tu vis ça comment, toi? Tu penses que tu es parti pour un long bail en équipe de France, ou ça va être la baston?
Ça va être la baston, oui et non. Après, ça dépend toujours des saisons. Ça dépend toujours de ce que tu fais en équipe de France. Mais moi, ça fait déjà... trois épopées que je suis là, voilà, et je suis encore là. Donc,
comment tu
déjà
réagis,
c'est pas mal.
Toi, quand t'entends en tant qu'intérieur de l'équipe de France, quand t'entends que Joël Elmoudi
va
peut-être avoir un passeport français bientôt, c'est une bonne nouvelle ou quelque part ça te saoule un peu?
Je pense que c'est pas moi le principal que ça doit déranger, mais voilà, après, c'est pas moi qui prends les décisions. Je comprends que ça veut gagner. Je vais pas m'étaler sur le sujet, mais voilà, Moi, je suis backup d'Eval maintenant. Je travaille pour ça. Je pense que ça se passera bien. J'aurai mes petites 5-10 minutes si ça se passe bien. Donc, ça se passe. Voilà. Mais après, écoute, ça, c'est le sport. Il y a plein d'équipes qui le font.
C'est un truc que tu maîtrises pas. C'est pas dans tes mains.
Voilà. Mais je te dis, c'est pas moi le principal que ça doit déranger, je pense.
Donc, ça veut dire que tu considères que derrière Rudy, c'est toi, quoi. Parce que si t'es pas le principal intéressé, ça veut dire qu'avec Embiid, tu fais Gobert, Embiid, Poirier. C'est comme ça que tu vois les choses.
Non, c'est pas ça que je dis. C'est que aujourd'hui, on a une hiérarchie dans l'équipe et que je pense que si Joël vient, ça va changer quelque chose. Mais voilà, je me mouille pas trop, t'as vu. Mais vous avez compris. Vous avez compris ce que je veux dire. Mais après, moi, Joël, je le connais. J'ai joué avec lui. Voilà, c'est un gars cool. On sait ce qu'il vaut. Ouais, de ouf. On sait ce qu'il vaut. C'est un des meilleurs big men de la NBA, voire le meilleur. Et offensivement, c'est vrai que c'est une arme redoutable. C'est un très bon gars et j'ai rien contre lui. Hein,
dernière petite question, parce que toi, je sais que Vincent, t'es quand même un mec de la night. Comment ça se fait que t'étais pas embarqué avec Thomas et Gershon dans la night au Pana, toi?
Écoute. J'ai été embarqué dans beaucoup de choses, mais.
Pas dans celle-là?
Pas dans celle-là.
Bravo. Bravo, t'as été
Vincent
fort.
Poirier, merci beaucoup, Vincent.
Merci, Vincent.
D'un.
Et bonne continuation en bleu. Donc, il y a ces deux matchs de Coupe du Monde et l'Euro qui arrive, bien sûr. On va en parler avec Boris Diaw, qui est notre prochain invité dans Basket Time sur RMC.
Goes on Timber. Diaw tries to finish and does. Diaw, low post. Couple of dribbles in, defense collapses. Beautiful play from Boris Diaw.
Obviously behind the back pass to Diaw. That's good. And Diaw just goes in old school, lays it up and in. Diaw, what a play. Oh, Boris Diaw.
Basket Time spécial équipe de France, donc avec Fred Weiss et Stephen Brun en direct de Nanterre au rassemblement des Bleus. Les Bleus qui préparent deux matchs donc face au Monténégro et la Hongrie pour se qualifier à la Coupe du Monde 2023. Il y a trois gros événements qui arrivent coup sur coup, l'Euro à la rentrée, la Coupe du Monde l'an prochain et bien sûr les Jeux Olympiques. On va en parler avec le manager Boris Diaw. Salut Boris.
Salut.
Et Pierrot, est-ce que t'es ému? Parce que
j'adore Boris.
C'est ton petit coup de cœur. C'est ton petit coup de cœur.
On va pas trop le cirer quand même. Il a l'habitude des RMC.
On vient souvent.
Exactement. Alors tiens, Boris, on va démarrer par là où on a fini avec Vincent Poirier. Mais là, on veut des infos. Là, ça en est où pour le passeport de Joël Embiid? Est-ce que ça a bougé?
Est-ce que ça a bougé?
Ouais. Est-ce que ça a avancé?
Je sais pas. Il faut lui demander s'il a son passeport. Aux dernières nouvelles, il l'a pas encore. Non.
Aux dernières nouvelles, il l'a pas encore. On va pas faire trop long là-dessus, mais dans l'esprit du staff de l'équipe de France. Vous comptez sur lui à moyen terme? C'est quelque chose qui va devenir concret, vraiment?
S'il a son passeport et s'il devient français et qu'il devient sélectionnable, bien sûr, c'est quelqu'un qui serait dans les tuyaux, oui.
A priori, pour l'Euro, ça va être juste. On compte pas sur lui pour l'Euro.
Il s'est fait opérer, Pierrot. Il était blessé, Joël Embiid.
Ouais. Au-delà du coup des papiers, c'est vrai qu'en plus, il s'est fait opérer de la main et qu'on récupère pas très rapidement, donc non, on sait pas, mais au-delà de ça, déjà, il faudrait qu'il soit français.
Non, mais bien sûr, mais après, les blessures et les démarches, je pense que c'est deux choses qui sont totalement décorrélées, donc peu importe, on va considérer que de toute façon, il sera pas là pour l'Euro. Nico Batum et Nando De Colo seront pas là. Est-ce que t'as la certitude que Rudy Gobert sera là, par exemple?
Oui, je pense que Rudy sera là. Mais moi, je croyais qu'on parlait du jeu de la Coupe du Monde.
Bah, alors, allez-y, je vous laisse avec Boris sur la Coupe du Monde. Et je ferai mon relou.
Toi, t'es sur l'Euro,
après.
C'est ça?
Non,
toi, tu bosses que sur l'Euro?
Sur deux, trois questions d'actu, voilà, qui nous intéressent.
Tu bosses que sur l'Euro, Pierrot?
Vas-y, Stephen.
Écoute, ce rassemblement-là, ça a l'air de bien se passer. Vous avez récupéré des joueurs qui ont l'air d'avoir envie, frais. Alors, des garçons qui ont terminé tard, un peu comme Elio Kobo. Mais c'est toujours bien d'avoir une dynamique. Est-ce que ces matchs-là contre la Hongrie, Monténégro, ça sert également aussi de match de préparation pour l'Euro?
Ou est-ce que c'est pas un peu pourri comme fenêtre? Non, mais concrètement, à cette période de l'année, c'est compliqué quand même.
Non, ça sert à plein de choses. Et ces fenêtres-là, comme à chaque fois, on a des joueurs qui arrivent motivés. On a des joueurs de qualité qui sont prêts à jouer ensemble et qui donnent toujours une très belle image et donnent toujours de leur personne. Et donc c'est arrivé sur sur les fenêtres de novembre, sur les fenêtres de février, et avec des matchs qui bien sûr sont pas toujours simples. Alors les qualifier de pourris, comme dirait
c'est un peu sévère.
J'y pourris tout simplement par rapport à la période,
par rapport à la date. Les dates sont pas top parce que ça fait des étés du coup qui sont très longs. Donc comme tu l'as souligné, il y en a qui viennent de finir leur saison il y a 24 heures et qui ont enchaîné ensuite directement. Donc la période est pas top, mais il y a d'autres joueurs aussi qui ont fini leur saison beaucoup plus tôt et du coup le fait d'être ici leur sert aussi de préparation estivale. Hein.
Mais comment ça se passe l'enchaînement justement, parce que là ils vont faire la préparation, ils vont faire les matchs et finalement il y a une autre pause et après t'enchaînes sur championnat d'Europe, comment ça se passe exactement?
Oui, en fait c'est des compétitions qui sont séparées. Alors bien sûr d'un point de vue FIBA il y a trois compétitions puisqu'il y a deux fenêtres et puis un championnat d'Europe, mais c'est vrai que la deuxième fenêtre s'inscrit en fait dans la préparation aussi de l'Eurobasket puisque c'est à 4 jours de l'Eurobasket. Donc nous on est vraiment sur deux temps. Et donc d'abord cette première fenêtre avec l'équipe qui a été construite ici, et puis ensuite il y aura un temps de pause de 3 semaines à peu près, un peu plus même, pratiquement un mois avant de commencer l'Eurobasket. Ouais.
Donc la préparation. Ça veut dire que les garçons qu'on va voir là, il y en a qui sont susceptibles de
bien entendu.
D'accord.
Bien entendu. Après voilà, ils seront pas tous là. Il y a d'autres joueurs aussi qui vont arriver après. Mais tout le monde, c'est vraiment aussi ce qu'on essaie de mettre en place. C'est pour ça aussi qu'il y a certains joueurs qui sont pas là sur cette fenêtre ici et qui auraient pu l'être parce que on a un groupe France qui est élargi et on voit depuis plusieurs années. Avec ces nouveaux systèmes et façons de fonctionner des fenêtres, tout le monde fait partie du groupe France. Donc tout le monde, bien entendu, présent ici et sélectionnable aussi pour la prochaine fenêtre et l'Eurobasket.
Et toi, Boris, ton rôle, c'est aussi durant l'année d'aller discuter avec les garçons du Team France. On a vu très récemment qu'il y avait un garçon qui, on pensait, a fait une croix sur l'équipe de France, c'est Fabien Causeur. Et on a vu que peut-être toi qui l'as convaincu, peut-être toi qui l'as remotivé. C'est une bonne nouvelle d'avoir susceptiblement de récupérer Fabien.
Bien sûr, c'est une très bonne nouvelle parce que c'est un joueur vraiment de qualité. Et c'est vrai que sur les dernières années... au fur et à mesure où les saisons étaient longues, il avait vraiment un rôle. Il avait des saisons qui étaient très longues aussi avec son équipe de Madrid et du coup, ça rentrait plus vraiment dans le cadre de son plan de carrière sur l'équipe de France. Mais aujourd'hui, c'est quelqu'un qui continue à être très efficace sur les terrains et qui, du coup, l'équipe de France pourrait vraiment s'appuyer dessus. Et donc, nous, on serait bien sûr très contents de l'avoir. Et après, j'espère qu'il serait très content aussi de pouvoir venir en équipe de France et puis de faire quelque chose qu'il n'a pas encore fait avec l'équipe nationale. Il était déjà, oui. Il était déjà là à Londres, pardon, mais avec un rôle différent. Et aujourd'hui, je pense que les choses sont différentes.
Mais là, vous avez juste repris contact ou c'est où il t'a donné, entre guillemets, son accord pour revenir ou...
Non, il m'a pas donné son accord ferme. On a repris contact. Il sait très bien qu'on aimerait bien l'avoir. Donc, après, il fallait laisser aussi la saison se terminer pour eux. Comme je dis, les saisons sont souvent longues et c'est souvent ça aussi qui fait partie des discussions que j'ai avec les joueurs. Mon rôle, c'est pas d'avoir une décision ferme des joueurs au mois de février ou de mars, puisque de toute façon, ça peut changer. C'est déjà d'avoir une tendance. Après, ça dépend des saisons, ça dépend de comment chacun se sent aussi.
Ouais, moi, j'ai juste une question par rapport à l'euro. Je sais que tu as envie de parler des fenêtres,
mais
moi,
si tu veux.
Parler de l'euro. Ça risque d'être un euro très très relevé. On s'attendait peut-être pas à ce qu'il soit aussi relevé. Forcément, l'objectif, c'est de le gagner, évidemment. Mais ça vous fait pas un peu une surprise, une peur, ou je sais pas quoi, par rapport à tous ces joueurs qui finalement se déclarent avec la volonté d'aller à l'euro?
Bien sûr, non, on va avoir un euro très relevé, mais c'est ça qui est bien aussi, c'est d'avoir beaucoup d'équipes compétitives qui soient là et on sent qu'on est compétitif aussi et ce qu'on a essayé de créer depuis plusieurs années et ce qu'on essaie de pérenniser, c'est vraiment d'avoir une équipe qui est capable de combattre pour un titre chaque été. Et donc l'euro, les coupes du monde, les Jeux Olympiques et donc il faut en profiter. Je pense qu'on a vraiment une génération qui est capable d'aller chercher des titres et on sait que c'est difficile et il faut en profiter tant qu'on l'a. Oui.
Babak, dernière question, on va parler de toi un petit peu. Ces derniers temps, il y a des garçons qui t'ont rendu hommage. Draymond Green pendant les finales NBA, Nikola Jokic, qui se sont inspirés de toi. Toi, je sais que t'es un peu au-dessus de ça, quoi. Tu t'en fous, mais ça te touche un petit peu quand même que des mecs comme ça te prennent en exemple.
Ouais, justement, je dirais que c'est plus ce genre de reconnaissance là qui touche et qui fait plaisir et qui fait honneur, être reconnu par ses pairs, pas pour minimiser le travail des journalistes, hein, oui, et des sûr. Consultants sportifs, mais être reconnu par ses pairs, c'est quelque chose de particulier. Donc d'entendre qu'on a pu inspirer d'une façon ou d'une autre certains joueurs de gros calibre qui font les finales NBA, qui gagnent un titre de MVP, ça fait forcément plaisir, bien sûr.
Non, mais pour Boris, la plus belle reconnaissance, c'est quand Greg Popovich ouvre une bonne bouteille de Château Pétrus. Là, il sait qu'il est quelqu'un qui compte.
Je sais que je lui ai fait plaisir.
Merci beaucoup, Boris.
Merci Boris.
À vous.
À très bientôt sur RMC, dans Basket Time ou ailleurs. Tu es le bienvenu. Toujours, on va terminer avec le quiz spécial équipe de France, messieurs.
Kawhi Leonard. Ah, Carmelo Anthony à Madison Square Garden.
Absolument pas, Stéphane Brun. Vous êtes tellement mauvais, ça me fait kiffer. Je crois que je vous ai déjà posé cette question.
Pourquoi tu la refais alors ?
Parce que, on va voir.
Il croit juste.
Je commence.
Quel salaud celui-là.
Tazania Thomas. Un indice, c'est la machine à triple-double.
Yaya Nicolas Russell Westbrook. Russell Westbrook. Ah, ok, si.
Mais oui, putain.
Moi, j'aurais dit Abdul-Jabbar, mais...
Abdul-Jabbar, c'est bon.
Je suis une merde.
Il était bien aujourd'hui, j'ai bien aimé.
Bonne
petite compile. Boris est resté ou pas? Ou vous faites le quiz en 1 contre 1?
Non, fait le quiz. Boris est parti en conférence de presse. Une conférence de presse.
Ce serait quoi la tactique sur un panier en 1 contre 1 contre Fred, Stephen?
Je vais l'emmener au large un petit peu. Je vais l'emmener au large. Après lui, je sais pas. Je pense que lui, il va peut-être.
Il va faire le contraire, peut-être.
Il va peut-être parier sur le fait que je loupe. Je suis pas sûr qu'il sorte au large avec moi. Donc après, c'est pile ou face. Sachant que.
Ça va jouer à l'adresse, quoi.
Ça va jouer à l'adresse ou peut-être à la rapidité sur le coup.
Ouais, mais alors, tu peux prendre des coups aussi si tu essayes de rentrer, non?
Oui, il peut me mettre une petite manchette. Ah, voilà,
c'est ça qu'il faut que tu fasses, Fred.
Ça fait partie du jeu.
Petit coup de coude dans les côtes avant de démarrer le quiz, là. Tac. Monténégro-France. Lors du match aller à Pau, donc France-Monténégro, qui a terminé meilleur marqueur des Bleus?
Cordier.
Exactement, Isaiah Cordier. Bravo.
C'est ça.
À 16 points, 8 rebonds, 4 passes. Très belle ligne.
Ce match-là, il m'est sorti de la tête.
Ah, voilà. Plus. Ouais, mais Fred, il est chaud.
Ah oui, il est. Oui, bien sûr.
Isaiah Cordier, qui était également là à ce rassemblement-là, qui a une chance de faire l'Euro.
C'est possible, oui. Avec le forfait de Nando De Colo, il y a peut-être un poste extérieur qui se libère.
C'est excellent.
Même si Fabien Causeur aussi est susceptible de récupérer ce poste-là.
Le premier point pour Fred, tu vois, le petit coup de coude dans les côtes, ça marche, Fred.
Bah, alors, ça dure pas longtemps.
Isaiah Cordinier, tiens, justement, on n'en parle pas souvent de ce garçon. En 2016, quelle franchise l'a drafté en 44e position? Ni l'un ni l'autre.
Atlanta, pardon.
Atlanta Hawks, excellent, bravo. Il a pas joué. J'ai dit
Brooklyn deux fois, Fred, il dit les Nets, mais c'est la même chose.
Oui, je sais, ouais.
Et moi, j'ai dit ni l'un ni l'autre.
Oui.
Oui, on avait compris.
Donc, ça fait un partout. Alors là, messieurs, maintenant, on va se plonger un peu dans l'histoire de l'équipe de France. Alors, c'est très simple. La question est très simple.
Oui.
Je vous envoie un extrait de match. C'est le premier qui me trouve de quel match il s'agit. Vous êtes prêts?
Ok.
Ça peut aller vite. C'est parti.
Ok.
Esta équipe.
C'était 2000.
Gauche. Valdo Amore. Bon valet.
France, Diamantidis, 3 points.
Qui a dit 2005, le premier? C'est Fred.
Ah, 2005, je sais pas.
France-Grèce, 2005, oui, c'est ça. T'as dit 2005, ouais, j'ai bien 2005, entendu un 2005. 2005.
Oui.
Je l'accorde à Fred.
C'est un bon.
Ah, donc 2005, ça passe. Le France-Grèce, ça passe.
Il y a eu plein de France-Grèce.
France-Grèce, ça suffit pas, Steve.
J'ai dit France-Grèce, Diamantidis, 3 points.
Ah, mais après, t'as dit après 2005, donc j'accorde après.
Exactement, je suis d'accord.
Quel escroc. Tu profites qu'on soit pas au studio pour pas prendre une pichenette derrière la tête. Bravo.
Les 40 points en 7 secondes. Les 7 points en 40 secondes.
Les
40 points en 7 secondes, c'est très fort.
T'es rôti, Pierrot, quoi.
Les 7 points en 40 secondes. Traumatisme du basket français. Donc ça fait 2-1 pour Fred. Parmi les joueurs en activité, qui compte le plus grand nombre de sélections en bleu?
Le plus grand nombre de sélections en bleu,
Nando.
Louis Labéry, Nando De Colo.
C'est Nando De Colo, absolument.
Mais Nando, il joue pas là, il est pas là, gros.
Je vous ai parlé des joueurs en activité.
Mais il a dit juste parmi les joueurs en activité.
Pour l'instant, il est pas en activité.
Mais il est en activité. Vas-y.
Pas en activité, équipe de France.
Là,
en activité club.
Un sommet de mauvaise foi, quand même.
Pas en activité, équipe de France, activité club. Putain.
Le deuxième, c'est Nicolas Batum. Nando a plus de sélections que Nico. Oui. Donc ça fait 3-1 pour Fred, attention. En 2005, toujours dans cette euro de triste mémoire. Tu te souviens qui est le meilleur joueur du tournoi, Steve?
En 2005?
Ouais, c'est Dirk.
Bah oui, mon grand.
Dirk Nowitzki, meilleur joueur du tournoi, mais qui est deuxième?
Andrei Kirilenko? Tony Parker?
Non, pas du tout.
Navarro? Juan Canavarro?
Non plus.
En 2005? En 2005. T'as pas
Lucas? Non.
Tabantis?
Non plus.
Spanoulis?
C'est une surprise, mais vous allez le trouver. Hein. Ouais, il est français, messieurs, dames.
Rigaudot?
Non.
Parker?
Non.
J'ai dit Tony.
Boris Diaw?
Boris Diaw, absolument, Boris Diaw.
C'était sûr qu'il allait avoir une totote à Babac en plus.
C'était sûr, Stephen, comment t'as fait pour pas y penser quand même? C'est incroyable, quoi. Sur l'équipe de France, je remarque quand même que Fred est très efficace, ça fait 4-1.
Plus de sélection, plus de métiers, Fred.
Ah ouais, mais quand même, les questions sont pas très difficiles.
Mais alors, en fait, Pierrot, là, je suis sorti de ma zone de confort, je suis pas dans le studio, là, je suis dans la salle où.
C'est ta salle, t'as gagné.
Dans cette salle, je suis en train de me murmurer le 3 points que j'ai mis dans le corner contre Boulazac en 2012, tu vois, il y a trop de trucs.
Il est à moitié en train de pleurer aussi, c'est l'émotion qui l'envahit.
Il est où Donadieu là? Il est dans le coin.
Pascal, il vient juste de passer, il est parti.
C'est pour ça, ça va te déstabiliser.
Ah oui, ça a mis la larmichette.
Alors comment on va faire pour qu'il revienne?
Il m'a viré, gros. J'étais chapeau face, il m'a viré, Pascal, salaud.
Ouais, mais c'est, tu l'avais peut-être un peu cherché, non?
Oui, c'est vrai.
Alors, je vous envoie un nouvel extrait. Ouais, mais là, attention, nouveauté, je vous pose la question après l'extrait. Ok.
Ok. C'est parti. Mais la réponse est dans l'extrait ou pas?
Non, la réponse, elle est dans la. Vous verrez la question.
4-4 pour Parker, 4-4 pour Antoine Diaw. Ils ont de l'eau glacée dans les dents. Il a demandé à son banc, est-ce que je fais faute? Est-ce que je fais faute?
Bah oui, il faut la faire la faute sur la montée de balle. Rodriguez, c'est raté! Et la balle sera toujours pour l'équipe espagnole. S'ils avaient pris ce rebond, le match était gagné. Oh, décidément, ça va être jusqu'à la toute dernière seconde qu'on va trembler.
Oui, il y avait deux Français qui ont touché ce ballon. Bon, au moins, il a raté son chute, Rodriguez, parce qu'il était seul. C'est Batum qui sort le ballon.
Alors, là, je vous pose la question, je ne vous donne aucun indice. Vous avez probablement reconnu le match, mais je ne vous dis pas de quel match il s'agit.
J'ai l'impression que c'était un France-Espagne, mais je ne suis pas sûr.
2013.
La question est simple. Que va-t-il se passer ensuite?
Oh putain, t'es sérieux, gros? J'ai même pas écouté la fin, gros.
C'est normal.
Rudy Fernandez qui tente de blesser Nicolas Batum.
Pas du tout. Pas du tout.
Que va-t-il... Tire de Antoine Diaw du milieu du terrain avant la mi-temps.
Non, pas du tout. Ce sont les Espagnols qui ont le ballon, si vous avez bien suivi. Est-ce que vous voulez réécouter l'extrait?
Attentat sur Rudy Gobert de Nicolas Batum.
Non plus.
Rudy Fernandez.
Non, énorme faute de Babac sous le cercle, non?
Non, pas du tout. Écoutez bien ce que dit David Cosette.
Oui.
Écoutez bien ce que dit David Cosette. Je vous remets l'extrait. Et si vous ne trouvez pas, tant pis, on vous donnera la réponse.
4-4 pour Parker. 4-4 pour Antoine Diaw. Ils ont de l'eau glacée dans les dents. Il a demandé à son banc, est-ce que je fais faute? Est-ce que je fais faute?
Bah oui, il faut la faire la faute sur la montée de balle. Rodriguez, c'est raté! Et la balle sera toujours pour l'équipe espagnole. S'ils avaient pris ce rebond, le match était gagné. Oh, décidément, ça va être jusqu'à la toute dernière seconde qu'on va trembler.
Oui, il y avait deux Français qui ont touché ce ballon. Bon, au moins, il a raté son chute, Rodriguez, parce qu'il était seul. C'est Batum qui sort le ballon.
Alors, vous avez entendu, s'ils prennent ce rebond, le match était plié. On est sur un France-Espagne.
Ils prennent pas le rebond, c'est l'Espagne qui gagne.
Donc il y a remise en jeu.
Il y a remise en jeu Espagne.
Pour les Espagnols.
Et que va-t-il se passer? Donne l'année, on est en 2013.
Pau Gasol qui met un dunk. Ah non, mais 2013, on a gagné.
On a gagné.
Interception.
Donnez-moi chacun une réponse. Et
interception de Batum.
Alors, tu dis interception de Batum. Toi, Steve, tu dis quoi?
Tir raté des Espagnols, on prend le rebond et après, ils font faute.
Alors, on va réécouter la version originale. 2013, Money Time, les toutes dernières secondes de France-Espagne pour une place en finale.
Oui, il y avait deux Français qui ont touché ce ballon. Bon, au moins, il a raté son chute, Rodriguez, parce qu'il était seul. C'est Batum qui sort le ballon. Mais il faut défendre, pas donner de position à 3 points. On fait faute, mais pas de position à 3 points.
Rudy Fernandez, Calderon. Calderon sur Parker. Calderon qui ne trouve pas de shoot. Calderon, Gasol. Gasol. Gasol toujours. Il reste 3 secondes. Gasol qui prend un shoot n'importe comment. C'est raté. Et la France est en finale.
C'était ça la bonne réponse. C'était shoot de Gasol à 3 points. Presque un airball. Hein. Il touche le cercle, mais c'est miraculeux. J'accorde le point à Stephen Brun.
Bah, merci.
Ah, bah, merci. On était loin quand même.
J'ai dit shoot raté dans l'espagnol, on prend le rebond. On en était loin. C'est shoot raté sur Gasol. Mais qu'est espagnol.
On n'a pas pris le rebond. Donc, alors, voici la réponse.
Maintenant, vous avez la fin de match en tête. Vous savez de quoi il s'agit,
Oui, d'accord.
Alors, je vous pose une question. Allez, une question à 2 points pour l'égalisation, Stephen. Qui défend sur Pau Gasol?
Flo Pietrus.
Excellent. 4-4, égalité. C'est gratuit, hein, les 2 points, Fred.
Oui, oui, c'est vrai.
C'est un peu sévère. Tu t'es dit sur le dernier, c'est un peu sévère
pour Fred qui a dominé la rencontre depuis le début, quand même. Il se retrouve à jouer une prolongation.
C'était juste pour le suspense en prolongation. Là, je sais pas ce qui s'est passé. T'as complètement foiré tes changements, tes temps morts. Tu t'es pris à moins 10 en 2 minutes.
Tu m'as inventé le tir à 4 points.
Pour vous départager, est-ce que vous êtes capable de me dire quelle est la meilleure performance de Tony Parker dans une Coupe du Monde?
Dans une Coupe du Monde, 28.
Je parle 35. De performance collective. Hein, performance
ah,
collective.
Dans une Coupe du Monde, 5e.
C'est tout?
C'est quoi?
Vous en êtes que là? C'est bon? Je vais vous départager par un match nul, hein, si vous en restez là. Hein.
Mais c'est quoi la meilleure performance? Je comprends pas ta question.
Avec Tony Parker,
deuxième.
Quelle est
deuxième.
La meilleure performance des Bleus en Coupe du Monde?
Deuxième.
Non, toujours pas.
Il n'a pas joué de Coupe du Monde.
Excellent, Fred Weiss, il n'a jamais joué de Coupe du Monde, Fred.
Exactement.
Tu t'en sors au buzzer sur un dunk venu de nulle part.
Pierrot, t'es scandaleux, tes questions.
Je pense que vous n'étiez pas trop dans le quiz parce que c'était le meilleur de la saison.
Quelle question, gros? T'as une question piège pour terminer, pour une balle de match?
Mais non, moi, c'est pour faire durer le suspense, le plaisir. Bien, voilà, c'est
de toute façon, je prends mon scooter, j'arrive au studio tout de suite.
Allez, à la prochaine pour Basket
Time.
Merci, messieurs.
Ciao.
Bravo.
Bye bye.
RMC Basket Time.